une page de forum où différentes personnes répondaient à une question. Celle-ci: où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Et je vous propose quelques-unes des réponses trouvées sur cette page web. Bah, tout simplement en me répétant que quoi qu'il arrive, ça ne pourra au grand jamais être pire qu'hier. Première réponse. Je la puise dans les encouragements et les compliments que me font les gens que j'aime. Autre réponse, je me remotive toute seule. Je puise dans mes réserves de courage comme un bon petit soldat. Tous les matins, je me dis que c'est mon devoir et qu'il faut que je l'assume. Où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Dans l'amour de ma gentille compagne, de mes amis, de mes enfants. Autre réponse, dans des futilités, parfois cela peut aider, sait-on jamais. Autre réponse, très courte, dans les bouteilles de Chardonnay. Dans l'amour de mes enfants. Il y a des jours avec et des jours sans, mais je dois ma force à des amis en grande partie, des anges venus de nulle part quand on ne s'y attendait plus. Et puis enfin, dans la méditation ou les sports en plein air, ou tout simplement une bonne marche en pleine campagne ou dans un parc proche pour se vider l'esprit et se recentrer sur les vraies priorités et de se faire reprendre de la force pour affronter les épreuves qui nous attendent sur notre chemin. Voilà quelques-unes des réponses trouvées sur cette page de forum. Et ce matin, je vous invite à la méditation d'un verset bien connu de la Bible qui apporte une autre réponse, une réponse même radicalement différente à cette question posée dans ce forum. Ce verset, c'est le verset d'Ésaïe 30, verset 15, qui dit que c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Je vous propose de lire ce verset avec son contexte, et nous commençons la lecture au chapitre 30, donc du livre Ésaïe, au verset 1er. Ésaïe chapitre 30, je lis les versets 1 à 15. « Quel malheur pour les fils rebelles !» déclaration du Seigneur. « Ils s'engagent dans des projets qui ne viennent pas de moi. Ils concluent des traités que je n'ai pas inspirés, pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans m'interroger, pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La forteresse du Pharaon tournera à votre honte, l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses messagers ont atteint Hanès. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Ceux qui vont acheter l'aide de l'Égypte. Sentence sur les bêtes du Néguev, à travers une terre de détresse et de désarroi, d'où viennent la lionne et le lion, le cobra et le dragon volant? Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera d'aucune aide. Car le secours de l'Égypte n'est que futilité et néant. C'est pourquoi je l'ai appelé Rahab au repos. Viens maintenant, écris cela devant eux sur une tablette et grave-le dans un livre. Ce sera pour l'avenir un témoin perpétuel. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des fils renégats, des fils qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de visions exactes. Parlez-nous avec complaisance. Ayez des visions chimériques. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Ôtez de notre présence le Saint d'Israël. À cause de cela, ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous mettez votre confiance dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette faute sera pour vous comme une brèche menaçante qui fait un renflement dans une muraille élevée. En un instant, tout à coup, elle s'écroule. On la brise comme on brise la jarre des potiers. On la met en pièces, on ne l'épargne pas. Et ses débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Je vous propose un plan très simple ce matin, quelques mots sur le contexte, en particulier le contexte historique de ce passage, et puis l'explication du verset, et enfin quelques mots d'application. Ésaïe, vous le savez certainement, est un prophète du Sud, et sa prophétie concerne le royaume du Sud, le royaume de Juda et Jérusalem. Ésaïe va exercer un ministère prophétique pendant plusieurs règnes, les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Ce sont tous des rois de Juda, et peut-être même qu'il exercera une partie de son règne à la fin de sa vie, enfin une partie de son ministère pendant le règne de Manassé qui vient après Ézéchias. La tradition juive, je dis bien la tradition, rapporte dans un livre apocryphe qui s'appelle l'Assomption d'Ésaïe qu'Ésaïe serait mort martyr. Il aurait été poursuivi par le roi Manassé, se serait caché dans un tronc d'arbre, et là il y aurait été scié en deux. Le ministère d'Ésaïe est le ministère prophétique le plus long de tous les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Il dure environ une soixantaine d'années, environ de l'an 740 jusqu'à l'an 680 avant Jésus-Christ. Et il commence l'année de la mort du roi Ozias. Le roi Ozias et le roi Jotham, qui lui succédera, sont les deux premiers rois du ministère d'Ésaïe. Ce sont deux bons rois qui vont faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et sous leur règne, sous le règne d'Ozias et de Jotham, Juda, le royaume du Sud donc, va connaître un temps de prospérité. Mais le roi qui va succéder à Jotham, le roi Akaz, va amener beaucoup de changements dans le royaume de Juda. C'est le retour au culte de Baal. C'est le retour aux idoles, c'est la pratique des sacrifices d'enfants qui s'installe dans le royaume de Juda et qui sont pratiquées dans la vallée de Hinnom. Et c'est pendant le règne d'Akaz, le troisième roi du ministère d'Ésaïe, qu'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, va faire alliance avec la Syrie. Ils vont faire une coalition pour attaquer Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe, ayant été averti de cela, met Akaz au défi, devant cette menace, de se confier en l'Éternel. Mais Akaz ignore les conseils du prophète. Et plutôt que de se tourner vers l'Éternel, Akaz va faire appel à l'aide du roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser. l'Assyrie, qui est la puissance dominante à cette époque. Et Tiglath-Pileser va répondre promptement à l'appel au secours d'Akaz. Et en 732 avant Jésus-Christ, Damas, la capitale de la Syrie, en deux mots, hein, la Syrie, va tomber aux mains des Assyriens. Et dans la foulée, le royaume du Nord va être subjugué par les Assyriens. Juda, le royaume du Sud, est alors réduit à un état vassal de la Syrie. Un grand tribut annuel doit être payé aux Assyriens. Le roi Ézéchias, le quatrième roi du ministère d'Ésaïe, va prendre le contre-pied total de son père, le roi Akaz. Il est délibérément anti-assyrien. C'est un bon roi et il va chercher conseil auprès du prophète Ésaïe. Et c'est ainsi qu'avec Ézéchias, le pays va être nettoyé de toutes ses idoles. Tous les hauts lieux vont disparaître. Les portes du temple qui avaient été fermées sont à nouveau ouvertes et le culte de l'Éternel est à nouveau célébré. J'ai presque terminé le contexte. C'est important de bien situer les choses pour qu'on mesure la force de ce verset. En 705 avant Jésus-Christ, va avoir lieu un changement important dans le royaume assyrien. À la tête de ce royaume, il va y avoir un nouveau roi, Sanchérib, va accéder au pouvoir. Et Ézéchias, alors, dans son petit royaume de Juda, va saisir l'occasion de ce changement politique majeur pour se révolter contre le joug assyrien et il refuse de payer le tribut annuel qui est dû aux Assyriens. Et donc, de protecteur qu'elle était, la Syrie devient alors une menace pour Juda. Et se profile petit à petit à l'horizon la menace de l'invasion, du siège de Jérusalem. Et c'est pendant cette période de menace, qu'Ésaïe va écrire le chapitre 30 dont nous avons lu les premiers versets. Que va faire le bon roi Ézéchias devant la menace assyrienne? Ézéchias va être poussé, influencé au sein de son royaume et de ses conseillers par un parti pro-égyptien. Ouais, la politique, hein, ça a toujours existé. Par un parti pro-égyptien qui le pousse à se tourner vers l'Égypte et à chercher auprès de l'Égypte le secours pour faire le contrepoids aux Assyriens. Et c'est ainsi que Ézéchias fait alliance avec l'Égypte pour résister aux armées de Sanchérib. Et nous avons lu au début du chapitre 30 d'Ésaïe la dénonciation de cette alliance par Ésaïe. Je relis les premiers versets. Quel malheur pour les fils rebelles! Les fils rebelles, ce sont les fils de Juda. Déclaration du Seigneur, ils s'engagent dans des projets qui ne viennent pas de moi. Ils concluent des traités que je n'ai pas inspirés pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans m'interroger, pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Et quand Sanchérib viendra, quelque temps plus tard, envahir Juda, il enverra alors un émissaire à Ézéchias, un émissaire qui lui reprochera cette alliance avec l'Égypte. Et nous trouvons ça au chapitre 36 du livre d'Ésaïe. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes forces de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké avec une puissante armée. Rabchaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabchaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi de l'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Devant la menace assyrienne, Ézéchias se tourne donc vers l'Égypte. Et quand Ésaïe écrit ce chapitre 30, les émissaires de Juda sont déjà en Égypte, ils sont déjà en route. Nous l'avons lu, déjà ces princes sont à Tsoan et ces messagers ont atteint Anès, les premières villes de l'Égypte. Juda cherche la protection de l'Égypte. Le peuple de Dieu cherche un abri à l'ombre de l'Égypte. Alors qu'il aurait dû chercher cette sécurité en Dieu, cette ombre auprès de Dieu, comme le dit par exemple le psalmiste au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà l'attitude que Juda aurait dû avoir, mais il n'en est rien. Et plutôt que de chercher refuge en Dieu, le peuple, le roi, cherche refuge en Égypte. Quelle folie! Quelle mémoire courte! N'ont-ils pas été esclaves en Égypte? Comment ont-ils pu oublier toute cette histoire, tout cet héritage? Dans notre texte, Ésaïe va prédire que cette tentative d'alliance est vouée à l'échec. Et c'est ce que nous avons lu dans les chapitres 5 à 7. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Et puis au verset 7, « Car le secours de l'Égypte n'est que futilité et néant. » Futilité et néant. Ésaïe dénonce cette alliance, la folie de se confier dans une puissance humaine, qui plus est idolâtre. Mais à ce stade, le peuple ne veut pas écouter, ni ce que Dieu veut dire, et en particulier ce que Dieu veut dire par la bouche du prophète Ésaïe. Et c'est pourquoi Ésaïe les compare à des fils rebelles, qui ne veulent ni de Dieu, ni de ses prophètes. C'est ce que nous lisons à partir du verset 8. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des fils renégats, des fils qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants, c'est-à-dire aux prophètes, ne voyez pas, ne prophétisez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de vision exacte. Parlez-nous avec complaisance, caressez-nous dans le sens du poil, dites-nous ce que nous avons envie d'entendre. Et ce refus d'écouter Dieu va entraîner le jugement de Dieu sur son peuple. Avec l'image d'un mur qui s'écroule et l'image d'un vase qui se brise, Ésaïe annonce le jugement de Juda dans les versets 12 à 14. À cause de cela, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous mettez votre confiance dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, Cette faute sera pour vous comme une brèche menaçante qui fait un renflement dans une muraille élevée. En un instant, tout à coup, elle s'écroule. On la brise comme on brise la jarre des potiers. On la met en pièces. On ne l'épargne pas et ses débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Peut-être que l'alliance, cette alliance avec Judas paraissait être un petit compromis, un peu comme une petite lézarde sur un mur, mais dans laquelle l'eau s'introduit, creuse à l'intérieur et puis un jour tout s'effondre. Ce qui paraît anodin au début entraîne par la suite la ruine. C'est donc dans ce contexte d'éloignement du peuple et dans ce contexte aussi d'annonce de jugement que le prophète Ésaïe prononce ces paroles, ce verset si connu. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Et nous arrivons au deuxième point, l'explication du verset. Que veut dire ce verset? Comment faut-il le comprendre? Dans ce verset, Ésaïe définit ce que la nation aurait dû faire et surtout ce que la nation devrait faire plutôt que de recourir à l'alliance avec l'Égypte. Et il dit tout d'abord que c'est en faisant demi-tour et puis que c'est dans le repos que sera leur salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, c'est qu'avant tout, Ésaïe appelle le peuple à la repentance. Parce que le mot qui est traduit ici par demi-tour est le mot qui est généralement utilisé dans l'Ancien Testament pour la repentance. C'est un mot qui vient de la racine revenir ou retourner. L'ancien second traduisait mal par tranquillité. Mais la nouvelle seconde dit c'est en faisant demi-tour. Et la Bible du semeur est encore plus explicite et encore plus précise pour souligner cette repentance. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Ça, c'est la traduction du semeur. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Alors, il faut bien évidemment voir ici un double sens. Il y a le sens de la repentance, mais il y a aussi l'idée du retour physique des émissaires. Ce demi-tour, ce retour en arrière, c'est la repentance, mais c'est aussi de repartir de l'Égypte. Mais le changement de cœur n'entraîne-t-il pas toujours un changement de direction dans notre vie? Ésaïe appelle donc le peuple à la repentance. Mais ce n'est pas tout. Si le peuple doit revenir à Dieu, il doit aussi rester tranquille. Il doit aussi se reposer en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La tranquillité ou le repos, on peut traduire des deux manières, c'est l'attitude de la confiance. C'est l'attitude de celui qui est revenu à Dieu et qui se confie en lui. Et nous devons souligner ici que ce qui est dit dans ce verset est aux antipodes de ce que le peuple a fait. Parce que le peuple s'est occupé à se sauver lui-même. Il a été occupé à trouver lui-même la solution à son problème. Et l'attitude que Dieu lui demande est à l'opposé de ce qu'il a entrepris, de ce qu'il est en train d'entreprendre. Dieu préconise le calme qui traduit la confiance, alors que le peuple est dans l'effervescence, dans l'action. Il refuse ce chemin du calme et de la confiance. Et c'est ce que nous lisons si nous continuons au chapitre 16. C'est dans le calme et la confiance que serait votre force, mais vous ne l'avez pas voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. C'est donc à la confiance que Dieu invite Judas, à l'attente confiante, au calme, au repos, à la tranquillité de celui qui sait que Dieu est aux commandes. Revenir à Dieu et le laisser agir. Bien des fois, la parole de Dieu nous exhorte à agir ainsi, à avoir une telle attitude. Elle nous exhorte à nous attendre à Dieu. Elle nous exhorte à espérer en Dieu. Elle nous exhorte à nous confier en Dieu et non pas à prendre notre destinée dans nos mains. Voilà une très courte sélection de tous les versets qu'on aurait pu choisir ici pour illustrer ce que je suis en train de dire. Psaume 27, verset 3, « Si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Psaume 59, verset 9, « Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. » Psaume 130, verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends tes promesses. » Lamentation 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ésaïe 12, verset 2, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Oui, la solution pour Judas était de revenir à Dieu, était de s'attendre à lui, était de remettre en lui sa confiance. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est en faisant demi-tour, en vous reposant, que vous seriez sauvés. Ce secours, Ézéchias va l'expérimenter. Après avoir cherché refuge auprès des Égyptiens, Ézéchias va écouter Ésaïe et il va revenir à Dieu. Il va même implorer le secours de l'Éternel. Et ça, nous le trouvons au chapitre 37 du livre d'Ésaïe. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Ézéchias est revenu à Dieu. Ézéchias est revenu dans une attitude de confiance à Dieu, et Dieu va répondre selon sa promesse. Et alas, toujours dans ce même chapitre 37, nous lisons « L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Ézéchias est revenu à Dieu et Dieu l'a délivré. » La deuxième partie de notre verset ne fait que reprendre ce que dit la première partie. C'est le principe du parallélisme dans la poésie hébraïque. C'est dans la tranquillité et la force et la confiance que serait votre force. Voilà ce que dit la fin du verset 15. La tranquillité ici correspond au retour à Dieu dans la phrase précédente. C'est la fin de l'agitation de celui qui prenait les choses dans ses mains pour maintenant les donner à Dieu après être revenu à lui. C'est dans la tranquillité. Parce que j'ai tout confié à Dieu. Et la confiance que sera votre force. Et la confiance est ici le repos de la phrase précédente. La confiance en Dieu, c'est le repos de l'âme. C'est l'attitude de celui qui est paisible devant Dieu parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. C'est quand je reviens à Dieu, même quand j'y suis déjà, quand j'y reste, quand je me repose en lui, quand je place en lui ma confiance, que je suis fort, que Dieu est ma force. C'est cela la force de celui qui se confie en Dieu. Et il y a une véritable force à se confier en Dieu. Il y a une véritable force à ne pas lutter avec ses propres forces. Avec ses propres compétences, non pas qu'elles soient mauvaises, mais de s'attendre à Dieu et de le laisser agir dans notre vie. Et parfois, il agit au travers de nos compétences aussi. Une véritable force à vivre dans la dépendance à Dieu, dans la confiance que Dieu s'occupe de moi. C'est ça la véritable force du croyant. Et vous le savez, l'apôtre Paul écrira que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dans notre faiblesse. C'est une réalité spirituelle. C'est quand je suis fort, c'est quand je suis faible. C'est-à-dire que je reconnais mon besoin de Dieu. C'est là que je deviens fort. C'est quand je suis dans une situation de dépendance et de confiance à Dieu. Quand je reconnais ma faiblesse et mon besoin de lui, que je suis finalement fort. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point où j'aimerais simplement dire quelques mots d'application. Comment appliquer ce texte, cette promesse à notre vie? Et j'aimerais tout d'abord souligner que nous n'avons pas ici une recette. Nous n'avons pas ici une formule magique, une méthode, une de plus sur le marché. Pour certains, la méthode, c'est la pensée positive. On en a eu quelques exemples sur la page du forum. Et pour les chrétiens, alors ça serait Ésaïe 30, verset 15. Ça serait ça notre méthode. Ce n'est bien évidemment pas de cela dont il s'agit. Il n'est pas question de méthode ici. Il est question de relation à Dieu, de confiance. Ce dont il s'agit ici, c'est de s'en remettre à Dieu. Ce dont il s'agit ici, c'est de se reposer dans sa souveraineté. Ce dont il s'agit ici, c'est de reconnaître que toutes choses sont dans sa main et de reconnaître que ma vie est dans sa main parce que je l'y ai placée. C'est de lui faire confiance. C'est de cela dont il s'agit ici. que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie d'église, dans tous les domaines de notre vie. Il est tellement facile de mettre notre confiance ailleurs qu'en Dieu. Il est si facile de se confier dans ses propres forces. On a tous des compétences et on s'appuie dessus. Notre intelligence, notre capacité de déduction, notre bon sens, toutes ces choses sont bonnes, notre sagesse. Elles sont bonnes, mais si elles remplacent Dieu, il y a un problème. Il est si facile de nous confier dans nos biens, dans nos richesses, dans notre carrière, dans notre position sociale peut-être. Il est si facile de tout faire, sauf de faire confiance à Dieu, sauf de s'attendre à lui, sauf de vivre dans le calme et la confiance en Dieu. Mes amis, comment réagissons-nous devant la difficulté, devant l'épreuve? Comment réagissons-nous quand ça va mal dans notre vie? C'est quoi notre réflexe premier? En qui ou en quoi trouvons-nous refuge? Où allons-nous chercher de l'aide? Est-ce que c'est vers Dieu que nous nous tournons? Il était question de bouteilles de chardonnay. La liste est immense de tout ce que nous pouvons prendre dans ces moments-là. Vers quelle Égypte sommes-nous tentés de nous tourner? Sommes-nous tentés de retourner? Vers quelle Égypte? Loin d'être une faiblesse, la confiance en Dieu est une force. C'est une force parce que je me repose en Dieu et parce que je sais que toutes choses et ma vie sont dans sa main. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Ça, c'est la lecture simpliste des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, plus d'épreuves, parce que je fais confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu va forcément me délivrer de l'épreuve que je traverse. Il peut très bien me dire, comme il l'a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, et je dois continuer avec cette écharde dans la chair. » Ça ne veut pas dire que Dieu nous délivre toujours comme il l'a fait pour Ézéchias. Mais cela veut dire que dans la confiance à Dieu, en Dieu, je peux traverser les épreuves de ma vie, que Dieu m'en délivre ou pas, dans le calme et la confiance de celui qui se sait dans la main de Dieu. Dans le calme et la confiance de celui qui se repose dans le Dieu Tout-Puissant, dans le calme et la confiance de celui qui sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, dans le calme et la confiance de celui qui sait que les voies de Dieu sont toujours, au final, les meilleures pour nous. Et tout cela, savoir tout cela, vivre de tout cela, est une force véritable pour chacun de nous. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà un des défis majeurs pour notre foi ou de notre foi. Celui de toujours placer notre confiance en Dieu. Et cela, quelles que soient les circonstances. Et des fois, c'est facile. Ça va tout seul. Aucun obstacle. Et puis d'autres fois, il faut le vouloir. Il faut vraiment le choisir. Parce que le retour en Égypte est tentant, ou en tout cas nous apparaît comme une bonne solution parfois. Que Dieu nous accorde de pouvoir placer notre confiance en lui, commençons déjà aujourd'hui, et puis tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous, tout au long des semaines de cet été qui sont devant nous. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et je vous invite à vous associer pleinement.